Actualité.
Lancement historique de la toute première organisation nationale dédiée spécifiquement aux communautés noires de LGBTQIA+ au pays. Pour en discuter, nous recevons Tyler Boyce, qui est directeur exécutif de Noir et Queer au Canada. Bienvenue à l'émission, Tyler.
Merci, je suis ravi d'être ici.
On est ravi de te recevoir. Qu'est-ce qui a motivé la création de Noir et Queer au Canada à ce moment précis de notre histoire?
Mais avant, j'étais directeur exécutif du Réseau Enchanté.
Oui.
Et j'ai vu que j'étais la seule personne noire autour des tables où les décisions vraiment importantes ont été prises à propos du financement, de la programmation. Et puis, évidemment, c'est pas une dynamique idéale. Mm-hmm. Donc, à ce moment-là, j'étais au courant du fait qu'il y a besoin d'une organisation nationale qui concentre sur les gens noirs qui sont aussi queer et trans.
Alors, au-delà de l'organisation, que représente ce mouvement pour toi personnellement et pour l'ensemble des communautés noires, parce qu'il n'y a pas une communauté, il y a plusieurs communautés?
C'est vraiment un retour à nos racines. Si on pense de notre mouvement de LGBTQI+, il y avait une femme noire, Marsha P. Johnson, qui a vraiment éclaté cette mouvement.
Ah oui,
mouvement.
Qui était derrière les émeutes de Stonewall.
De Stonewall, exactement. Oui. Et puis maintenant, en 2026, on voit qu'il y a seulement une directrice exécutive qui est noire au niveau national. Donc évidemment, c'est pas bon et on veut retourner à nos racines de cette mouvement. Pour moi, personnellement, c'est vraiment un espace où les idées, les perspectives des gens noirs pour être... pour être écoutés. Mm-hmm. Et où on ne doit pas comme... à essayer de combattre le racisme avant d'être entendre, mais jusqu'au début, on peut partager nos idées et informer les politiques et les programmes qui touchent nos vies.
Noir et queer au Canada, on a l'impression de passer de l'invisibilité à l'influence. Est-ce que je me trompe?
Mm-hmm.
C'est ça?
Tu te trompes pas, moi.
Quels ont été les principaux obstacles systémiques qui ont maintenu les personnes noires de LGBTQIA+ ou de la diversité sexuelle et de genre dans l'ombre jusqu'à aujourd'hui?
Donc, maintenant, comme c'est vraiment une question de leadership, si on n'a pas les gens qui nous raisonnent aux tables où les décisions sont prises, on n'est pas là.
On va avoir une citation de Mark Carney: quand on n'est pas assis à la table, on est sur le menu, quoi.
Exactement, ouais. À Davos. Mais ce qu'on a besoin, c'est que, par exemple, j'étais avec la ministre en novembre et on a annoncé la ministre de Wage. Oui. Richie Valdez.
Oui.
Et on a annoncé 10 000 $ pour les communautés, les organismes communautaires de LGBTQI+. 10 000.
Millions.
Oui. Et c'est vraiment historique.
Oui.
Mais s'il n'y a pas une organisation qui est concentrée sur les gens qui sont noirs et queer et trans, on n'est pas inclus, on ne peut pas profiter des ressources. Et quand on voit les différents domaines comme logement, emploi, sécurité, il y a des taux qui sont vraiment plus pires,
oui,
pour des Noirs. Donc, on a besoin des ressources et la première étape, c'est de créer une organisation pour qu'on puisse faire ce sort de travail.
Et de prendre leur place. Parce que trop souvent, on attendait qu'on laisse la place.
Ouais.
Là, vous allez prendre votre place.
Exactement.
C'est important, ça, comme façon de voir les choses. On va parler de chiffres. En fait, je pense qu'on l'a mentionné, mais on dit que 86% des personnes noires de LGBTQIA+ ont subi du racisme au sein même des espaces queer. En plus de la moitié qui ont été confrontées à des menaces de crimes haineux. Comment on peut interpréter ces statistiques-là au sein de nos communautés? C'est quand même désolant d'entendre ça.
Oui, exactement. On a trouvé ça pendant un projet de recherche qui a duré plus qu'un an. Et c'est, pour nous, en tant que Noirs, c'est pas quelque chose sous prénom.
C'est ça que je trouve encore plus triste. Vous êtes pas surpris de ces chiffres-là?
Pas du tout. Comme des fois, si on parle toujours d'inclusion, mais des,
oui,
fois, l'inclusion n'est pas vraiment possible parce qu'il y a le racisme dans notre propre communauté de LGBTQI+. Et quelqu'un a créé cette mythose que les communautés de LGBTQI+ sont à l'abri de la racisme, mais c'est pas vrai.
De toute évidence, c'est pas vrai, oui.
Donc, on a des amis, on a des alliés dans notre communauté, mais il y a aussi des problèmes qui doivent être réglés dans notre communauté.
Et ça veut dire quoi aussi sur l'urgence d'agir quand on voit ces chiffres-là?
Mais c'est vraiment un contexte d'urgence. Si on parle des crimes haineux, on sait que les crimes contre la communauté de LGBTQI+, sont l'un des plus violents.
Oui.
Mais les crimes haineux qui sont les plus communs au Canada sont envers des Noirs. Donc, si on n'est pas dans des espaces où les décisions sont prises, où les ressources, où on discute le financement de notre mouvement, on ne peut pas régler ces mauvais taux de haine.
Oui. Donc, votre organisme va se concentrer beaucoup sur la recherche, on veut du changement politique. On va au-delà là, de la simple visibilité. Remarque, c'est important d'être vu, wow, mais on va aller plus loin que ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de votre collaboration actuelle avec le gouvernement fédéral pour faire progresser là, l'équité en emploi pour les fonctionnaires noirs et queer?
Oui, donc vraiment, c'est un de notre environ de focus. On veut assurer que les gens noirs et queer ont à la base la possibilité d'avoir des emplois qui mm-hmm. sont dignes, les emplois qui sont stables, pour qu'ils puissent régler leurs propres problèmes. Mais ça commence avec le logement, mais ça commence aussi avec l'emploi. Et nous avons des partenariats partout au Canada pour régler ces problèmes, pour créer des opportunités d'emploi.
Est-ce que je peux t'amener sur un terrain qui est peut-être un peu délicat, mais il faut en parler? Beaucoup de personnes vont dire, être queer dans la communauté, dans les communautés noires, c'est souvent pas bien vu. Alors, vous subissez un peu de discrimination vis-à-vis les personnes blanches, mais même au sein de vos propres communautés. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un travail à faire auprès des communautés noires, tu penses?
Bien sûr, il y a du travail à faire, mais il y a aussi du travail à faire de raconter nos propres histoires.
Oui.
Parce que toujours, il y a cette mythose envers les mythologies à propos des communautés noires qui sont plus homophobes que des autres communautés. Mais c'est pas vrai.
Mm-hmm.
Mais la raison que cette histoire est partout, c'est parce que on a pas une organisation comme Noir et Queer au Canada pour qu'on puisse raconter nos propres histoires, nos propres perspectives et expériences dans notre propre communauté. Donc, oui, il y a du travail à faire dans la communauté noire, mais il y a le travail à faire dans toutes les communautés.
Toutes les communautés sont au même niveau. Et finalement, c'est toujours un peu... J'ai posé la question en sachant très bien que je m'en allais là, parce que c'est quand même... C'est une vue qui est quand même très raciste de penser que les communautés noires sont moins ouvertes vis-à-vis les personnes homosexuelles.
Exactement ça, ouais.
Ouais. Que dire aussi des communautés queer? Là, on a dit, parfois, c'est sûr qu'il y a de la discrimination. Il y a plusieurs sortes de discrimination. Là, je vais t'amener sur un autre terrain qui est un peu délicat,
oui,
mais tout ce terrain de ce qu'on appelle l'objectivisation, surtout chez les hommes gays, des hommes noirs. Mm. Est-ce que c'est quelque chose qui est omniprésent ou je me trompe?
Non, c'est bien sûr omniprésent et c'est à cause des stéréotypes. Et la chose qu'au Noir et Queer au Canada, on est concentré sur de mettre la confiance, même dans, ou uniquement comme dans les jeunes,
oui,
pour qu'ils puissent le voir d'une façon qui est beaucoup plus grand des stéréotypes qui existent, qu'ils sont, ne sont pas juste les stéréotypes, mais ils sont des individuels aussi avec,
oui,
leur propre intérêt et tout ça. Et il faut être apprécié comme ça.
Oui, je n'ai pas entendu les détails, mais je pense que les gens comprennent où ce que je voulais aller avec ça, parce que c'est souvent un des problèmes que beaucoup de personnes, d'hommes noirs, queer, que je connais, me racontent, puis je me dis, mais c'est pas croyable qu'en 2026, on est encore là.
Exactement.
Encore du travail à faire. L'organisme aspire à ce que les communautés s'épanouissent dans la sécurité et l'autodétermination. Alors, quel message on peut envoyer aux jeunes noirs et queer qui cherchent aujourd'hui des espaces où ils peuvent enfin rêver d'être qui ils ou elles sont sans limite?
Mais en premier, c'est juste à dire qu'ils sont parfaits. Vous êtes parfaits comme vous êtes. Des fois, c'est difficile d'imaginer un monde qu'on n'a jamais vu avant.
Oui.
Donc, de voir comme la représentation d'une organisation nationale noire et queer au Canada, pour voir qu'on n'est pas seul, mais en fait, on est parti d'une coalition, communauté partout au Canada. C'est ça où la change commence. Donc,
oui,
je veux que les gens sont au courant du fait qu'ils ne sont pas seuls. On est là, moi, je suis là, et on a du travail à faire, mais on va faire ce travail ensemble.
et de faire reconnaître aussi qu'il y a une discrimination systémique, pour ne pas dire racisme systémique. Le simple fait de se promener en auto, parfois, c'est compliqué quand on est une personne noire.
Les problèmes avec la police qui aiment en faire face aux communautés noires, mais aussi les problèmes avec la police qui sont faire face aux communautés de LGBTQI+. Il faut avoir des différentes perspectives, la recherche, ce qu'on fait au Noir et Queer au Canada, pour qu'on puisse informer des politiques publiques qui sont meilleures.
Alors là, vous êtes situé présentement, vous êtes un peu partout au Canada ou votre siège social est ici à Montréal?
Partout au Canada, Montréal, Ottawa, Edmonton et aussi Vancouver.
Et là, je sais qu'il y aura une espèce de lancement qui aura lieu avec un sommet. Alors raconte.
Ouais, donc c'est le plus grand sommet des gens noirs, queer et trans dans l'histoire du Canada. C'était à Ottawa en février avec des centaines, des leaders noirs, queer et trans. Et on a vraiment imaginé un monde meilleur, un monde où nous sommes pas seulement inclus, mais où nous aussi dirige l'agenda de notre système politique, nos politiques publiques, nos programmes, où on discute qu'est-ce qu'on a besoin et quelles sont les solutions. Et c'est vraiment, il y a de pouvoir dans ça, où les gens se sentent que leur voix a de valeur.
J'aimerais parler à Tyler lui-même. Alors, Tyler, t'as grandi où?
Moi, j'ai grandi à Ottawa, mais je suis maintenant à Montréal.
À Montréal. Comment c'était de grandir comme jeune homme noir et queer?
À Ottawa.
À Ottawa?
C'était différent à Ottawa.
À Ottawa, il roule les trottoirs après 10 heures le soir.
Ottawa s'évolue rapidement. Oui. Mais pour moi, je suis vraiment chanceux d'être à Ottawa avec des bonnes écoles, universités et tout ça. Et un petit statistique à propos d'Ottawa, c'est après les Blancs, la plus grande communauté ethnique, c'est des Noirs. Donc, oui, il y a une grande communauté noire, une fierté d'être noire à Ottawa, et c'est vraiment mes racines qui m'ont poussé de créer cette organisation au niveau national.
Donc, tu te sens un peu privilégié, puis tu sens le besoin de partager tout ça?
Et je veux partager ça avec tout le pays.
Et tu vois ton organisation où, dans un an, dans deux ans?
Dans quelques ans, je vois qu'il y a vraiment les connexions entre les gens noirs, queer et trans partout au Canada. Et je veux voir l'inclusion de notre communauté dans des stratégies existantes au niveau de la politique publique. Par exemple, le logement, pas juste la visibilité, mais l'emploi, le logement, toutes ces stratégies qui existent. Moi, je veux voir d'une façon spécifique l'inclusion de notre communauté avec des ressources.
Tyler Boyce, directeur exécutif de Noir et Queer au Canada. Bravo pour cette organisation, puis merci d'être passé nous voir.
Merci beaucoup.